La procession des mages, à la suite des bergers d'ailleurs, auprès de la crèche, se poursuit depuis 2000 ans, avec un nombre incalculable de personnes qui viennent adorer le Seigneur, qui le rencontre dans l'humilité de l'enfant, caché dans un enfant, dans un bébé. Et nous-mêmes, nous faisons partie de cette procession, nous participons à cette procession de ceux qui viennent l'adorer. C'est une dimension importante de l'acte de foi chrétien, c'est de ce pas, on ne se contente pas simplement de dire « je crois en Dieu incarné en Jésus incarné en Jésus, dans le sein de Marie », comme un acte de foi extérieur et superficiel et intellectuel, on pourrait dire d'une certaine manière, même si je pense qu'intellectuellement, si on en reste là, on ne peut pas tenir trop longtemps cet acte de foi de l'incarnation, hein, parce que c'est tellement étonnant comme initiative divine qu'on peut tout de suite on peut se remettre en question, on peut remettre en question la foi chrétienne, hein, beaucoup l'ont fait avant nous, hein, mais donc il faut vivre cela avec le cœur, dans une attitude intérieure, et finalement ce que nous faisons maintenant, ce à quoi nous croyons, nous invite vraiment à l'adoration, à la reconnaissance. Il y a plusieurs manières d'adorer Dieu. Nos frères protestants évangéliques adorent Dieu dans la louange. Et c'est un acte d'adoration que de louer. L'Eucharistie est une action de grâce. Et nous sommes, quand nous entrons en Eucharistie, comme l'a rappelé très fortement le pape Benoît XVI, mais comme le disent tous les textes du magistère de l'Église, en commençant par le Concile Vatican II, eh bien, l'Eucharistie est un acte d'adoration. C'est l'acte d'adoration par excellence, d'ailleurs, dans notre vie. Et nous sommes donc invités à entrer dans cette adoration, donc dans la louange, mais il y a aussi une autre manière d'adorer que l'on voit dans les évangiles aussi. Dans les évangiles, il y a aussi cette action de grâce qui est présente quand Jésus, en particulier, fait des miracles, quand on reconnaît la divinité de Jésus, quand on rend grâce pour les miracles de Jésus. Mais aussi, régulièrement, on voit devant l'enfant Dieu, mais aussi quand Jésus sera adulte, il commencera sa vie apostolique, on voit régulièrement des hommes, des femmes qui se prosternent profondément devant Jésus, et disent et professent, au moment le plus fort, c'est au moment avec saint Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais en tout cas, ils disent « Seigneur », un titre qui est donné à Dieu. Ils professent qu'il est Seigneur et donc qu'il est Dieu. Ils reconnaissent en Dieu et ils l'adorent dans cette prosternation. Et nous sommes nous aussi invités, alors par le cœur et aussi parfois par le corps quand on peut, à se prosterner devant Dieu. Toujours le pape Benoît XVI rappelait qu'on se met à genoux, nous chrétiens, alors si on le peut évidemment, on se met à genoux devant Dieu pour ne pas nous mettre à genoux devant personne d'autre, pour ne pas devoir nous prosterner devant autre chose et personne d'autre. Autant dire, le christianisme, quand il est bien vécu, avec le cœur, avec l'humilité de celui qui adore, qui se prosterne, eh bien, le christianisme nous protège de devoir nous laisser dominer par toute forme d'idole ou bien le nom ne vient pas, mais d'autorité d'autorité qui s'impose d'en haut, comme ça a eu lieu dans l'histoire bien des fois, et particulièrement dans l'histoire récente, et comme ça a eu lieu encore des fois. J'ai vu récemment un court reportage sur la Corée du Nord. C'est assez impressionnant de voir comment les dictateurs, un peuple entier se prosterne, adore un dictateur, puisqu'il se fait vénérer. Et je sais qu'il y a d'autres pays comme ça. Alors, j'ai peut-être la naïveté de croire, je n'ai pas vérifié, mais que ça n'arrive pas dans les pays chrétiens. On ne peut pas Alors c'est arrivé hein, avec le nazisme, ça a pu arriver, parfois des pays chrétiens qui deviennent communistes, mais jusqu'à un certain point, je pense qu'à un moment, il y a un réveil spirituel qui se produit et qui fait que on ne peut pas persévérer dans cette attitude. Si on adore Dieu, on n'adore personne d'autre. Mais il faut adorer Dieu. Sinon, on se construit des idoles. Alors, aujourd'hui, on peut dire, même si ce n'est pas fait avec le corps, on peut dire qu'on adore le matérialisme, la richesse, le bien-être, le confort. On adore l'individualisme. On s'adore soi-même. Hein, parfois, notre idole, c'est nous-mêmes. Hein, dans cette recherche permanente de service, de confort, qui nous détourne du prochain. Donc il y a des pièges. Nous sommes nous aussi en danger. En tout cas, ce dont je vous invite vraiment, et ce que cette fête nous invite en premier lieu, c'est de suivre les mages à la suite des bergers, de suivre les mages pour adorer le seul Dieu, l'unique, et le reconnaître dans l'enfant de la crèche, et d'oser, et ça demande de l'humilité, d'oser donc adorer le Seigneur avec le cœur avant tout, et aussi avec le corps, avec la voix, dans la louange, en louant Dieu. Hein, il faut aimer louer Dieu aussi, et puis en l'adorant parfois dans le silence. Hein, il y a l'adoration eucharistique aussi qui nous aide aussi à rentrer dans cette attitude d'adoration. Je vous invite aussi à reconnaître, parce que dans le prolongement de ce mystère de l'incarnation, eh bien nous aurons le mystère de la croix et nous aurons le mystère, l'institution de la Sainte Eucharistie qui résume le mystère pascal, le mystère de la croix, où tout est présent, tout est là. Hein, à la fois l'enfant Dieu hein, est là, hein, ce Dieu qui se fait petit, et aussi le salut, hein, le sacrifice du Christ est rendu présent, actualisé dans l'Eucharistie. Et continuellement présent, c'est Jésus qui se donne dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, donc, est le lieu par excellence pour nous catholiques de l'adoration. Hein, nous sommes invités, nous aimons adorer le Seigneur dans l'Eucharistie. Et là aussi, il ne faut pas négliger cette démarche, comme si elle était facultative ou périphérique dans notre foi chrétienne. Plus, encore une fois, hein, plus nous adorons Dieu, plus nous l'aimerons, parce que ça va aussi de pair, évidemment. Nous aimerons Dieu de tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme, comme il nous est donné, et que nous l'adorons, hein, parce qu'il est tellement beau, tellement aimable, tellement humble. Et il nous aime tellement, plus nous l'adorons, plus nous serons protégés contre toute forme de déviance dans notre vie qui ferait que nous adorions autre chose. Et c'est un témoignage que d'adorer un seul Dieu. C'est un témoignage que d'adorer simplement Dieu présent à la crèche, par notre foi, par la profession de notre foi, par l'Eucharistie, présent dans l'Eucharistie. C'est un témoignage, rien que ça, c'est un témoignage. Sans doute qu'il ne peut pas suffire à lui-même, parce qu'il nous faut, à un moment ou l'autre, proclamer, dire notre foi, dire ce à quoi nous croyons. Hein, c'est une nécessité depuis le début de l'Évangile, depuis le début de l'évangélisation, toujours la foi est produite par la parole proclamée. Hein, cette foi en Jésus qui est Dieu et qui est mort sur la croix pour nous sauver. Hein, il nous faut la proclamer à temps et à contre-temps, mais l'adoration donc accompagnée de cette profession de foi, eh bien, peut porter de grands fruits et peut libérer. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, dit Seigneur. Pour trouver le repos, pour que nos contemporains trouvent le repos, il nous faut qu'ils viennent à lui. Et nous sommes invités à montrer le chemin vers le Seigneur, hein, le chemin de l'adoration et de la foi. Alors, les mages nous montrent que l'adoration est quelque chose d'important. Les mages nous montrent aussi, puisque ce sont des païens qui viennent adorer le Seigneur, que le message de Jésus est pour tout le monde. Et il nous faut bien prendre conscience que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, ou qui le connaissent mal, ou qui leur a été caricaturé, présenté caricaturalement, eh bien, ont besoin de l'accueillir. Que Jésus est venu pour tout le monde, qu'il est pour tout le monde, qu'il est la réponse à l'attente de tous les cœurs humains. Il nous faut bien prendre conscience que la foi chrétienne n'est pas réservée à un peuple, à une élite, à une caste sociale, à un milieu social, à quelques-uns, mais à tous. Et pour cela, nous sommes invités à être comme Jésus, comme les apôtres, comme les missionnaires, à être travaillés de l'intérieur par ce désir d'annoncer. L'épiphanie nous montre que s'ouvre au monde entier l'annonce, enfin que Dieu veut se manifester au monde entier, eh bien, il nous reste donc à nous-mêmes à participer à cette annonce, et le Seigneur se sert de son Église pour cela. Et qui dit son Église dit chacun de nous sans exception. Et nous sommes invités en premier lieu à prier pour cela, à intercéder pour que nous soyons missionnaires, pour que le Seigneur envoie des missionnaires. Prions les uns pour les autres, nous prions pour nous-mêmes, pour que nous-mêmes nous convertissions et nous devenions missionnaires. Il est difficile aujourd'hui de témoigner de sa foi, parce que la foi chrétienne dans nos pays est perçue comme une religion de seconde qualité, des religions plus intéressantes, plus exotiques, qui font davantage rêver peut-être. Et donc il est difficile pour nous de témoigner de notre foi, parce que nous savons que bien souvent nous ne serons pas accueillis. Mais c'est aussi le lot de ceux qui croient en Jésus, c'est qu'ils seront persécutés. Et donc il nous faut entrer dans cette croire que c'est bien. D'ailleurs Jésus dit exultez, sautez de joie quand vous êtes persécutés. Donc faut pas. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle nous avons tant de difficultés pour proclamer notre foi, pour annoncer Jésus. Sans doute nous sommes maladroits, ça c'est vrai, mais pas uniquement. Sans doute nous avons peur. Nous avons peur du qu'en dira-t-on. Nous avons peur de la réaction de nos contemporains. Nous avons peur de perdre le lien avec nos proches si nous proclamons notre foi, si nous disons que nous croyons en Jésus, que nous l'adorons. Mais il nous faut oser pourtant le faire. C'est une nécessité qui est dans notre foi chrétienne. La foi se diffuse par la charité, par la charité vécue, mais elle se diffuse par la proclamation de notre foi. Il nous faut par la proclamation explicite. Et donc, nous sommes invités à prier le Saint-Esprit pour ne pas dire n'importe quoi. Il y a deux choses que nous pouvons retenir pour proclamer notre foi. Déjà, vivre notre foi. Je parlais de l'adoration. Quand je parle de l'adoration, ça veut dire aussi mettre en pratique ce à quoi nous croyons et suivre les commandements de celui que nous adorons. D'avoir une vie cohérente. Ensuite, quand nous proclamons notre foi, il y a deux choses. Il ne faut jamais juger notre prochain. Enfin, trois choses. Jamais juger notre prochain. Écouter. Accueillir l'autre, même s'il est aux antipodes de ce que nous croyons être le bon chrétien. Même s'il nous choque par ses attitudes, par sa conduite de vie, voire même par sa parole, par ce qu'il dit de la foi chrétienne. Il nous faut accueillir. Accueillir comme Jésus accueillerait. Et enfin, quand nous avons su accueillir, ça veut dire que parfois, on ne peut pas parler dès le premier coup à quelqu'un de Jésus, parce que parfois, il faut d'abord qu'il se sente bien accueilli. Le curé d'Ars, vous savez, quand il a commencé dans sa paroisse d'Ars, il a commencé à faire le tour, les paysans n'allaient plus à la messe, Il travaillait le dimanche et tout, et donc il a fait le tour des paysans, et il ne leur a pas parlé de Jésus la première fois. Il leur a demandé comment ça allait. Il s'est intéressé à leur ferme, ce qu'ils vivaient, s'intéresser aux gens. Ne pas juger, s'intéresser aux gens. Accueillir. Cette qualité d'accueil est tellement importante parce que c'est le reflet même de l'amour de Dieu qui aime chacun, quelles que soient ses situations. Et enfin, une fois que nous avons pu accueillir, c'est là que vient la profession de notre foi, où nous pouvons dire, non pas dire des grandes théories, oui, Dieu veut pas que, Dieu Dieu veut que des grandes morales, mais dire simplement, voilà ce que Jésus est dans ma vie, ce qu'il a fait dans ma vie, comment il vit dans ma vie, comment il est vivant dans ma vie, comment j'ai rencontré le Dieu vivant. Et il faut toujours ne jamais oublier de dire Jésus, c'est Dieu venu par amour pour me sauver par la croix. C'est le cœur de notre foi, par la mort et la résurrection. Et donc, il nous faut non pas sortir des grandes tirades sur ce qu'est le chrétien modèle et que tout le monde devrait suivre, mais dire voilà ce qu'il est pour moi dans ma vie, voilà comment il habite mon cœur et ma vie. Voilà comment il m'a rejoint, je l'ai rencontré, témoigné de sa foi, j'ai rencontré, et voilà, et refusé de rentrer dans les grands débats idéologiques qui peuvent dériver de notre profession chrétienne, en particulier de la morale chrétienne. Voilà, donc deux choses que je vous confie à part cette grande fête de l'Épiphanie, c'est une très très grande fête, l'équivalent de Noël, même si en Occident elle a perdu de sa force. L'Épiphanie, la première chose, adorons, venez, adorons le Seigneur, l'adorez vraiment, tout notre cœur, toute notre force. La deuxième chose, osez diffuser notre foi chrétienne. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Peut-être personne. Voilà. En tout cas, c'est une question qui nous est renvoyée à chacun. Voilà. Donc, osons, malgré le danger d'être ridiculisé, humilié, moqué, osons dire notre foi. C'est très beau de perdre sa réputation à cause de Jésus. Il n'y a pas mieux, en fait. Voilà, je vous laisse avec ça. Que l'Eucharistie nous fortifie et nous nourrisse. Amen. Et pardon, j'étais un peu long.